Jacques Ferrandez, bonjour.
Bonjour.
Vous voilà de nouveau attelé à votre tâche, celle de rendre vivante un monde disparu, celui de l'Algérie française. Vous l'avez fait avec vos Carnets d'Orient. Cette fois, vous adaptez en bande dessinée Le Premier Homme d'Albert Camus. Ce n'est pas la première fois non plus que vous adaptez Albert Camus. Le Premier Homme, c'est un roman inachevé qui a été retrouvé dans la sacoche de l'écrivain après son accident de voiture le 4 janvier 1960. D'une certaine manière, vous vous êtes calqué là-dessus pour raconter un peu aussi votre Algérie à vous.
D'une certaine façon, mon Algérie, je l'ai raconté dans mes Carnets d'Orient sur les 10 tomes qui évoquent la conquête, la colonisation et la guerre d'Algérie, mais sans jamais me mettre, si vous voulez, en scène ou sans parler de façon précise des miens, de ma famille, même s'il y a des témoignages familiaux qui ont pu nourrir mes récits. Là, je me suis vraiment coulé dans le récit d'Albert Camus, puisque c'est évidemment un récit autobiographique, mais son personnage, ce n'est pas Albert Camus, c'est Jacques Cormery, c'est-à-dire que tout le roman est écrit à la troisième personne, c'est pas je, c'est Jacques Cormery. Et le fait d'avoir cette espèce de filtre entre Albert Camus et moi me permettait aussi peut-être d'avoir plus de liberté sur l'adaptation.
Alors ce Jacques Cormery, votre personnage, c'est le double d'Albert Camus, vous l'avez dit, il est beau, il est séducteur, et il raconte sa lignée, en fait, les hommes et les femmes qui ont fait de lui ce qu'il est devenu. C'est un petit garçon qui a été orphelin de père. Son père est mort à la guerre de 14-18. Et sa mère, sourde, l'a élevé difficilement, on va dire. C'était une famille assez pauvre.
Très pauvre même, analphabète, n'étant absolument pas capable de s'exprimer, autrement que par une certaine violence. La grand-mère, on voit les scènes où la grand-mère bat le petit Jacques. Bon, je précise tout de suite, il y a rien de misérabiliste dans cette histoire. On est en permanence dans le récit d'une enfance pauvre, sans doute comparable à beaucoup d'enfances de ces années 1920, c'est-à-dire il y avait une forme d'autorité, il y avait une forme de conception de l'éducation, disons, aussi bien d'ailleurs à la maison qu'à l'école, puisque le maître lui-même est quelqu'un qui a une certaine autorité aussi sur les enfants. Vous savez, les hussards noirs de la République, il faut faire passer les connaissances, il faut repérer les bons élèves et les enfants qui sont capables de faire des études. Il y a le système des bourses, etc. C'est toute l'histoire d'Albert Camus avec son instituteur, Monsieur Germain. Et Camus ne se répand jamais sur un ton larmoyant sur ce qu'aurait été cette enfance difficile. Et c'est une enfance qui est illuminée de toute façon par les jeux, la mer, le soleil, les copains. Il y a quelque chose de très solaire, évidemment, chez Camus. Il y a quelque chose, finalement, d'assez assez banalement simple et banalement heureux dans cette enfance. Aussi.
Oui, cette atmosphère qui est à la fois douce, ça tient aussi à vos encres, à vos couleurs, à vos aquarelles, mais qui est aussi dure, hein, parce que c'est l'Algérie coloniale de 1913, enfin on démarre en 1913.
Oui, et puis surtout c'est aussi l'Algérie de ces petits blancs qui n'ont pas d'histoire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, évidemment, la guerre d'Algérie est passée par là, et on a tendance à considérer que finalement tous les pieds noirs c'était des sales colons, exploiteurs, riches, qui faisaient suer le burnous, etc. Là on voit qu'il y a toute une population de petits blancs, qui d'ailleurs viennent de différentes régions, soit de France, comme le vrai père d'Albert Camus aurait des origines alsaciennes. Et puis du côté maternel, c'est toute cette lignée qui vient d'Espagne, des Baléares, très pauvres, c'est-à-dire des familles que la terre ne peut pas nourrir dans ces îles-là. Donc beaucoup d'exil, beaucoup d'émigration. Et à cette époque-là, on émigre où ? On émigre vers l'Algérie parce qu'il y a la promesse simplement d'une vie meilleure. Et on voit cette grand-mère qui est elle-même mère d'une famille nombreuse, avec beaucoup d'enfants qui sont morts en cours de route, et qui se retrouve là, à Alger, avec sa fille, donc la mère du jeune Jacques, qui est infirme, c'est-à-dire qui est sourde-muette, qui est femme de ménage, qui ne sait pas lire ni écrire. L'oncle, c'est-à-dire le fils de cette grand-mère, Ernest, qui est quelqu'un aussi de très fruste. Donc c'est une enfance dans un milieu extrêmement défavorisé, on dirait aujourd'hui. Et il y a cette élévation, parce que c'est aussi le roman d'une élévation, hein, ce Premier Homme, c'est le parcours de quelqu'un qui est sorti de son milieu et jusqu'à devenir prix Nobel. Hein. En 57, Camus devient un prix Nobel.
Alors Jacques Ferrandez aussi, dans le Premier Homme, ce qu'on voit, il y a peu de transmission en fait de l'histoire de sa famille. Et à chaque fois, pour toutes les étapes, alors il y a des gens évidemment qui vont l'accompagner quand même, de la bienveillance autour de cet enfant, mais il faut se réinventer. À chaque fois, c'est une première fois.
C'est pour ça que c'est le Premier Homme, c'est-à-dire c'est celui qui va pouvoir raconter pour la première fois cette histoire et prendre la parole pour ceux qui ne l'ont pas et ceux qui ne savent pas s'exprimer.
Alors c'est aussi un adieu au pays de l'enfance, on voit les déchirements de l'Algérie.
Bien sûr, alors évidemment quand Camus écrit cela, c'est avant bien entendu l'indépendance. On peut penser qu'il le pressent, il y a toute la scène quand il retrouve son lieu de naissance dans la ferme coloniale justement où il est né, où son père était ouvrier agricole. Et là il voit effectivement celui qui a pris la place, qui est là, qui a ouvert les cuves à vin pour tout vider, qui a arraché les vignes et qui est prêt, lui, justement, à tout abandonner et en le laissant quasiment dans l'état où il l'a trouvé. Et puis, il y a l'interlocuteur de Jacques. Il dit, bon, on va continuer un peu, excusez-moi du terme, mais c'est dans le roman, on va continuer un peu à se couper les couilles et puis on finira par vivre comme avant, comme des hommes. Enfin, voilà. Donc, il y a cette violence aussi du pays qui est à l'œuvre. Albert Camus ne peut pas savoir ce qui va devenir dans ce pays par la suite. Mais en tout cas, dès le début, que ce soit Camus ou Jacques Cormery, pense qu'il y a un destin commun de tous les hommes, de tous les habitants de ce pays, quelle que soit leur origine ethnique, religieuse, etc., et qu'il y a quelque chose à construire ensemble. Ça, Camus n'en a jamais démordu, finalement, jusqu'à sa mort.
Et c'est peut-être ça aussi qui rend ce roman graphique, cette bande dessinée, si émouvant, parce que les histoires se rejoignent, finalement.
Oui, si vous voulez, d'une certaine façon, la recherche que fait Jacques Cormery sur les siens, sur l'histoire de son père, sur l'histoire de sa famille, c'est celle que j'ai fait, moi, depuis les années 80, sur mes carnets d'Orient. C'est-à-dire, là aussi, essayer de comprendre d'où on vient et essayer de s'inscrire ensuite, essayer d'inscrire son histoire dans l'histoire de ceux qui vous ont précédé. Et c'est tout ce que Camus décrit dans le premier homme.
Merci beaucoup, Jacques Ferrandez. Donc, je rappelle que votre bande dessinée, Le Premier Homme, est disponible aux éditions Gallimard, bande dessinée.